Il s'agit de variétés d'appellations qui se situent sur la côte nord du Cotentin. C'est-à-dire, en gros, et surtout la Hague, mais également le Val-de-Serre. Je n'ai pas utilisé de graphie phonétique. J'ai utilisé une graphie littéraire, de même que pour mon dictionnaire. Et je vous expliquerai éventuellement comment les variantes phonétiques peuvent être lues à partir d'un lexique qui semble être français au départ, si on veut, mais qui a ses prononciations en Normandie. Donc, les variantes, tout d'abord un petit peu de méthodologie. Alors, on m'a présenté comme étant un linguiste. En fait, je suis un modeste prof de lettres. J'ai fait une maîtrise de linguistique romane autrefois avec option dialectologie. Et j'ai eu entre autres, bien sûr, René Leplay, mais surtout Fernand le Chanteur comme professeur. Et c'est avec Fernand le Chanteur précisément, qui était celui qui avait repris la chaire de Girlanger, si ça vous dit quelque chose, à Caen, que j'ai créé le Wiké. Hein. Enfin, c'était à l'époque parlé par les traditions populaires de Normandie. Donc je continue d'utiliser un peu la méthode le chanteur, c'est-à-dire la méthode qui consiste à être en immersion dans la langue. Je suis moi-même patoisan. J'ai été élevé en particulier avec des pêcheurs. Dès mon plus jeune âge, j'étais avec les vieux pêcheurs qui m'ont transmis leur langage. Et encore aujourd'hui, j'essaie, avec les derniers vieux qui parlent ce langage, de converser régulièrement. Ce qui fait que c'est un langage que je connais parfaitement bien et qui mais je le dis très cher. Bon, j'ai essayé, c'est de vous montrer comment quelques espèces, hein, tout simplement, sont à la fois susceptibles d'avoir des variantes dans un même lieu ou dans des lieux proches. Et surtout, comment, selon certaines espèces, selon leur spécificité économique, sociale, vitale parfois, elles peuvent prendre alors des champs lexicaux plus ou moins élevés, plus ou moins larges. Hein. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par les poissons. Les poissons, il y a un poisson qu'on trouve nommé chez Gilles de Gouberville, qui s'appelle le sort mulet. Alors sort, on connaît, c'est un vocable francique qui signifie fauve, roux, et qui généralement désigne, c'est le cas dans la chanson de Roland, le pelage des chevaux, hein, les chevaux qui sont sorts. Bon. Et le sire de Gouberville, Gilles de Gouberville, parle du sort mulet, c'est-à-dire en fait du mulet rouge. Et en effet, c'est un poisson qui s'appelle le rouget barbé, généralement en français, mais qui ressemble par ses écailles, par son aspect à un mulet, mais qui a une couleur, en effet, à dominante rouge, fauve. Et ce sort mulet est devenu surmulet. Alors, je vous ai dressé un petit tableau pour montrer justement les appellations communes en français, avec le nom scientifique que je passe, vous le lirez vous-même. Et l'appellation locale est donc l'explication rapide. Pourquoi? Je vous explique ce tableau. Généralement, nous nommons je dis nous, les pêcheurs de la Hague, nous nommons les choses en fonction de leur aspect. On ne va pas, bien entendu, aller chercher un vocable grec ou latin pour désigner une espèce qui nous est commune. Donc, on utilise tout simplement les comparatifs, les images, hein, les métaphores. Et le sort, donc, mulet sur mulet, vous voyez, en est un exemple. Il y a ce qu'on appelle le lompe. Vous savez, c'est les succès d'années de caviar, hein, c'est des œufs de lompe, des œufs de limpe. Hein. C'est un poisson donc, que l'on voit sur nos côtes quand il vient pondre. C'est un poisson assez rond, assez gros. Et qui s'appelle donc le gras seigneux ou gras signeux, c'est-à-dire tout simplement le gros, le gras seigneur, hein, d'où son apparence. Le poisson lune, qui est un poisson tout rond, hein, et qui donc porte d'ailleurs le nom de poisson lune à cause de cette forme. Chez nous, il porte le nom de rouet. Le rouet à cause précisément de la pièce principale du rouet, c'est-à-dire la roue, hein, et donc c'est sa forme ronde qui le désigne. On parlait tout de suite de la baudroie, de la lotte de mer, comme on dit. C'est un poisson, en effet, qui est respectable par sa mâchoire. Il n'y a pas intérêt à laisser la main dedans, hein, et qui est toujours vendu sans sa tête, parce que la tête est tellement repoussante que on n'arriverait pas à le commercialiser. Hein. Eh bien, c'est un poisson, d'ailleurs, remarquons bien, qui était rejeté par les pêcheurs autrefois, qui n'en trouvaient pas la commercialisation. Eh bien, on l'appelle tout simplement le diable, c'est-à-dire le diable, hein, avec la consonne plus L mouillée. Hein. Le grondin. Alors, le grondin, généralement, les espèces qui sont les variantes, disons, d'une espèce, sont mises dans le même sac. Hein. Donc, on va dire grondin en général, donc toutes les formes de trigle. Il y en a une expression qui est assez intéressante, c'est l'expression méchante. Pourquoi méchante? Parce que ces grandes nageoires pectorales rappellent en fait la chape du méchante de l'Église. Et c'est en plus un poisson qui s'appelle grondin en français parce que quand on le sort de l'eau, quand il est encore vivant, il émet, à cause de sa vessie natatoire, je crois, il me semble, hein, une sorte de grondement. Donc, méchante. Hein, méchante. Le cabillaud. C'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, la morue, en fait, la morue. Petite, et toute petite, qu'on pêche en particulier en saison estivale, tourne très vite. C'est une pestilence à bord si on les laisse au soleil. Hein. C'est pourquoi on les appelle tout simplement des sentamas. Alors, sentamas, qui sent, et là, c'est une forme adverbiale du normand qui est assez intéressante, hein, a plus ma, mauvais. Sentamas, bon. Au contraire, ce qui sent bon. Hein. Mais on verra tout à l'heure que pratiquement dans la même aire linguistique, à quelques kilomètres près, à disons 5 ou 6 kilomètres de différence, c'est l'orphie que j'ai graphié orphie avec la graphie latine, hein, comme on dit, alors que normalement, chez nous, on dit orphie, et c'est plutôt donc la forme scandinave. Eh bien, cette orphie, qui a une odeur également très particulière, surtout quand il y en a beaucoup dans un bateau, qui va porter le nom de sentamas. Donc, sentamas, Saint-Germain-des-Vaux, Auderville, hein, et Aumonville. Sentamas, l'orphie, à Urville-Nacqueville. On parlait tout de suite de la vieille. Eh bien, donc, on ne va pas trop épiloguer. Il y a un terme général qui est le terme vra. Bon, on l'a vu, hein. Et c'est donc un vra qui est dit varié. Hein. Donc on dit divers, j'ai mis divers, mais il y a énormément d'espèces. Or, ce poisson, qui est un poisson très médiocre du point de vue gastronomique, hein, est un poisson qui a une importance économique réelle. C'est un poisson qui était non seulement, disons, très pêché par les pêcheurs eux-mêmes, mais par les terriens, hein, qui en faisaient donc un mets. Et surtout, il continue de servir comme appât, comme bête, on dit, hein, pour les casiers à crabe, homard, etc. Ce qui fait qu'il a un caractère quand même intéressant et que économiquement, il a donc son importance. On y reviendra. Alors, le gros vra, qui a des parures d'écailles colorées avec ses points plus clairs, qui ressemblent à des perles, est dit perlé, perla, mais souvent, en fait, avec l'amuissement du R devant L, hein, ça c'est un caractéristique du normand, on le trouve sous la forme de pila. Et même quand vous avez la finale qui est carrément ouverte en haut, hein, vous avez pilo. Par contre, une autre espèce est plutôt verte. Elle tire sur le vert. Cette espèce-là s'appelle des coues vertes. Des queues vertes, tout simplement. Quant aux gros spécimens, les gros spécimens, ont des lèvres qui sont donc très développées, ces lèvres saillantes qui sont déjà caractéristiques du vrai, et on dit alors lipu. Ce qui veut dire que lipu a une double connotation, c'est un vrai et c'est un adulte de belle taille. Le lieu jaune, il existe plusieurs variétés de lieux, le lieu jaune, le lieu noir, etc. On va s'en tenir au lieu jaune pour l'instant. Donc, les gros spécimens qui sont de couleur dorée, cuivrée, s'appellent tout simplement, c'est-à-dire que c'est l'adjectif qui devient donc le nom, hein, un cuivre. Par contre, les jaunes qui ont des petites ornementations, des lignes rouges sur leur livret, s'appellent des barbets rouges. La sole. Bon, je ne vais pas vous parler de la sole plus longtemps, vous savez ce que c'est qu'une sole. Les tout petites soles sont donc désignées par un terme dépréciatif qui est langue des cas, c'est-à-dire langue de chat. Et enfin, les congres, donc qui portent également plusieurs noms, quand ils sont très petits, terme dépréciatif également, hein, c'est un fouet. Un fouet. Les mollusques. J'ai présenté ce qu'on appelle des figues chez nous, hein. Une qui a été décortiquée volontairement parce que elle rappelle quand même quelque chose. Hein. Souvent, on appelle ça un nœud de brebis, c'est-à-dire un œil de brebis, à cause de cet aspect justement globuleux qui rappelle l'œil de la brebis. Mais c'est toujours les très gros spécimens. Et les très gros spécimens portent également le terme de rang, qui désigne le bélier chez nous, et qui est l'équivalent de l'anglais ram. Ici, vous avez un exemplaire justement de la plisie, ce qu'on appelle le lièvre de mer, hein, qui s'appelle un teinturier. Un teinturier. Hein, teinturier. Parce que ce mollusque a la particularité de sécréter un liquide qui tache tout, qui en violet, hein, et donc qui joue le rôle d'un teinturier dans les mailles d'un filet, par exemple, hein, qu'il va tacher de cette couleur violette. Dans les crustacés, ce qu'on appelle le crabe ou tourteau, hein, en français, chez nous, ça s'appelle un chiopoint, qui a les points clos. D'ailleurs, à Jersey, ils disent l'inverse. Le dictionnaire de Franck Lemaître, qui est un monument également, hein, le dictionnaire de Franck Lemaître, note point chio. Hein. Donc, à cause de ces grosses pinces qu'il tient serrées, hein, en avant de sa carapace. Par contre, la femelle, quand elle est suffisamment adulte, porte le terme de bochu. Pourquoi ? Parce qu'elle se distingue en effet du mâle par la forme renflée de sa carapace. Donc, si vous avez pechine bochu, comme on dit, hein, ça veut dire que c'est une femelle clopoint, hein, et vous avez donc une information qui est donnée rien que par un seul mot, rien que par un vocable. Alors le homard, bien entendu, c'est l'espèce par excellence, c'est celle qui est la plus appréciée. Là, il y a énormément de termes pour désigner les homards, selon leur âge, selon leur taille, selon qu'ils sont mâles ou femelles, selon qu'ils ont des pattes qui sont cassées ou pas. Bon, il y a tout un ensemble très intéressant. Alors, par exemple, le gros mâle, c'est un patu. C'est un patu parce que ce qui le caractérise, c'est ses grosses pinces. Et la pince, c'est la patte. Autrement dit, on ne se préoccupe pas de toutes les petites pattes qui sont sous les céphalopodes. Hein, bon. Et on se préoccupe uniquement des grosses pinces. Par contre, quand ces grosses pinces manquent, là, c'est encore quelque chose qui est une information intéressante, parce qu'on ne va pas pouvoir le commercialiser de la même façon. Hein, donc il sera épata, etc. Bon, hein, et même sans pattes. Alors sans pattes, c'est invendable. Continuons. Le petit homard, c'est le critier. Alors oui, j'ai souligné le QU, hein, parce que les palatalisations sont différentes selon que l'on se trouve à un endroit ou à un autre dans le Cotentin. Ça peut varier, par exemple, pour Barfleur, du que dur, cri que, hein, jusqu'à cri tché, en passant par cri tché et cri tché. Donc, on a noté une fois pour toutes Q avec un soulignement pour dire toutes ces variantes. Donc, pourquoi de comparaison avec l'insecte de petite taille qui saute? C'est ce qui s'est passé pour la langouste, d'ailleurs, me semble-t-il, hein, en latin. Bon. Donc, le homard femelle, on dit tout simplement une femelle, parce que c'est la femelle par excellence. Mais il arrive que sa livrée ne soit pas de la même couleur que les autres. Au lieu d'être en bleu sombre, elle peut être bleu clair, ou même presque blanche. En particulier sur le sable, on pêche parfois des femelles qui sont blanches. Donc on dit une bieue ou une biancharde. C'est-à-dire que là encore, l'adjectif se nominalise. Il est un crustacé qui a donné son nom en français, son nom normand, c'est la crevette. On ne dit pas crevette, on dit crevette. Hein. Ce qu'on appelle encore le boutier. La crevette, avec métathèse, n'est-ce pas, c'est la chevrette. Forme quevrette du normand. Hein. Et le bouquet, c'est le diminutif tout simplement de bouc, c'est le petit bouc. Donc toujours l'idée de sauter. Hein. Puisqu'on parle d'animaux qui sautent, c'est un animal qui est peu connu, Galathea ructosa, hein, la Galathée, bon, mais qui est très sympa, qui est très joli, c'est gros comme ça. Les plus gros spécimens, celui-là, devait faire à peu près 10 cm. Hein. Pince non comprise, de la pointe du ros à la pointe de la queue. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un sacatu. Le verbe sachi, c'est-à-dire taper, hein, et tu, cu. Parce que il a l'habitude, c'est de taper sans cesse de la queue. Donc, on dit qu'il est sacatu. C'est à Saint-Germain et Auderville. Par contre, à Aumonville, on dira un tape-cu. Donc on a changé de verbe. Bien entendu, tape-cul, c'est aussi la petite voile à l'arrière d'un navire. Dernier de la liste, le Bernard l'ermite. Le Bernard l'ermite a l'habitude, c'est d'emprunter les coquilles vides des autres gastéropodes, parce que son abdomen mou n'est pas protégé. Et étant donné qu'il est très apprécié des poissons, il a intérêt quand même à se cacher à l'intérieur de ces coquilles vides. Et il s'en sert comme d'une armure, en quelque sorte, met ses grosses pinces devant, et c'est pour ça que les pêcheurs l'ont appelé tout simplement un soldat, à cause de son aspect. Les oiseaux maintenant. Passons aux oiseaux. Je serai assez bref, parce qu'il faut quand même aller relativement vite. Il y a le grand labe. Alors le grand labe, c'est un oiseau qui est... toujours derrière les autres oiseaux, derrière les goélands en particulier, et qui a l'habitude de poursuivre ces oiseaux, non pas pour, comme on l'a cru pendant très longtemps, comme le croyaient les pêcheurs, pour happer les excréments, pour manger les excréments, d'où son nom peu flatteur de gobe-merde, hein, ouais. Mais en fait, c'est pour leur dérober leur proie. Parce que le goéland qui se voit poursuivi par un labe, généralement, laisse tomber sa proie, c'est un peu comme dans la fable, ça dure derrière. Et le labe s'en empare. Ce qui fait que les pêcheurs, qui avaient mal vu sans doute, ont pensé que c'était tout simplement pour manger les excréments des autres. Le fou de Bassan. Alors le fou de Bassan, selon les régions, porte pas mal de mots, enfin de noms différents. Généralement, on le désigne par un terme à la hague qui est le tangar. Hein. Mais dans le Val-de-Serre, on trouve d'autres termes, comme margor, etc. Et surtout gobe-rérant. Gobe-rérant parce qu'il a l'habitude de plonger sur les bancs de poissons et de les avaler, de remonter avec le poisson carrément dans le bec, et donc on l'a appelé gobe, celui qui gobe les harengs. Je vous rassure, il n'y a pas que des harengs que le fou de Bassan peut se mettre dans la panse ou dans la falle, parce que il est un très bon pêcheur de toute espèce. Enfin, différents immatures de goélands. Alors, il y a au moins 6 ou 7 espèces, je ne suis pas un grand spécialiste en oiseaux, enfin je m'y intéresse un peu, de goélands. L'ensemble de ces goélands, y compris les mouettes, qui n'ont rien à voir, s'appelle chez nous, du mot qui a été irrité du scandinave, mauve, les mauves. Bon. Autrement dit, on regroupe tout le monde dans une seule appellation. Et les immatures de toutes ces formes de goélands ont la particularité d'avoir un plumage qui est grisé. Les premières plumes sont blancs avec des taches grises, ce qui donne un aspect gris à l'ensemble de l'oiseau. C'est pourquoi on l'appelle grison. Donc les grisons, à cause de l'aspect donc général de cet oiseau. Les plantes. Les plantes, ici, donc vous avez les fucus. Eh bien, toutes les appellations que l'on a ici pour les algues brunes se justifient par l'apparence de ces plantes et la comparaison que donc elles engendrent. On vient de voir tout de suite la fulle de tienne, la feuille de chêne, en effet, qui ressemble de par son découpage à une feuille de chêne. On a le lâcher, c'est-à-dire le lacet, il ressemble en effet à une longue ficelle. La bruyère, c'est-à-dire la bruyère, à cause de l'aspect de ses ramifications. Hein. Les édules, les aiguilles, toujours à cause des ramifications qui sont pointues. Et bien entendu, c'est un ascophyllum nonosum qu'on a en dessous. Ça s'appelle tout simplement des couilleurs, à cause précisément de ces gros aérocytes que portent ces algues. Et donc, ça veut dire affublé de testicules, hein, gros, mot à mot, hein, tout simplement. Et quant à... il existe des laminaires qui sont très longues, gaufrées sur les bords, et on les appelle encore aujourd'hui des fraises, sans très bien comprendre qu'en fait, c'est le vieux mot pour désigner le col hein, de l'ancien temps, avec ses gaufrures. Autre point intéressant, pour différencier une même espèce, on a souvent des appellations qui sont issues de dérivations par affixe, surtout par suffixe. Hein. Et en voici quelques exemples. Par exemple, donc, pour un augmentatif, la crabe. Attention, la crabe, je dis bien. Hein, comme en français jusqu'au XVIIe siècle, d'ailleurs. Hein. C'est un mot qui désigne l'araignée de mer chez nous, et non pas le pagure. Hein. La crabe, l'araignée de mer, quand vous en avez un gros spécimen mâle, la dérivation donc se fait sur crabe T. Crabe T égale gros, ce crabe mâle. Par contre, dans les diminutifs qui sont beaucoup plus nombreux, pour le homard, alors attention, j'ai mis... le soulignement du H, c'est re, hein, ruma. Bon. On a gardé un singulier, ruma, un ruma, pluriel des rumeurs. Singulier pluriel avec le R qui réapparaît au pluriel. Bon. Un genou, des genours, par exemple. Une ure, des ures. Bon. Eh bien, donc, le ruma, quand il est tout petit, c'est un roumillon. Hein, dérivation donc en ion. Le clopoint qu'on a vu tout de suite, le clopoint, c'est par contre tout simplement en clopine et, hein, donc comme en français. Hein. De même que le lieu jaune, alors on a les deux suffixes, soit colline et, soit colline haut, donc petit colin. Pour le mulet, pour le turbo, plus intéressant en tin, turbo tin. Hein. Pour le mulet, muleton. Pour les godes, c'est-à-dire les tacos. Mais c'est un collectif. On ne reparlera jamais au singulier. Pour un élément seul, isolé, de godal. C'est-à-dire godal, c'est ensemble de petites godes qui ne valent pas grand-chose, qui sont toutes juste bonnes à mettre sur des hameçons pour pêcher une autre espèce. Le cabillaud, je vous ai dit, morue. Hein, morue. Bon. Le petit cabillaud, outre le centama qui tourne vite, c'est une mouruette. Hein. La sole, on a vu la langue de cas, quand c'est au-dessus de la langue de cas, c'est une solette. Et le vrac, donc déjà cité par mon prédécesseur, vracton, vraquier. Hein. Bon. Donc, deux dérivations, toujours les... Hein. Et enfin, je vous disais tout de suite que le congre avait pas mal d'appellations. Le petit congre, donc, sur vigré, c'est-à-dire sur le petit congre, j'ai bien, devient vigrous. Donc, un vigrous, c'est un petit congre, c'est-à-dire que ça ne vaut pas grand-chose. On n'est pas loin du fouet dont je parlais pour commencer. Vous voyez, vous avez toutes les tailles. Cette fois-ci, avec un changement de radical. Sur le macré, alternance qu'on avait dans la déclinaison de l'ancien français encore. Bon, hein. Le petit macro s'appelle une languette. Toujours le GU souligné, donc languette, 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 selon les régions. La dorade, généralement, porte le terme de brène ou brème, entre les deux nasales, me, ne, hein. Ça peut varier souvent. Et terme qu'on retrouve un petit peu partout, je pense, hein, on doit le retrouver en Bretagne également, pour le petit. Le homard, on l'a vu, donc le cri tché, pour le changement de radical. Et alors, plus intéressant, pour la crabe, je reviens sur ma crabe, araignée de mer, alors là, il y a une foule, hein, de mots pour désigner les petits spécimens. Plou, pluriel plour d'ailleurs, rouélène, moussette, moussard, j'en passe à des meilleurs. Par contre, dans les domaines augmentatifs, l'étril, dont vous avez ici étril ou portune, hein, étril bon, chez nous, hein, ou anguillette encore, bon, la grosse, gros mâle, sagan. Pour la crabe, toujours la crabe, hein, araignée de mer, toujours dans les augmentatifs, les gros spécimens. Alors là, ça c'est en train de tomber en désuétude. Hein. C'est des enquêtes des années 60, des vieux pêcheurs qui m'ont transmis ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui connaissent. Le très gros mâle, c'était pas un crapté, c'était un rarla. Rarla, avec un H. Hein. Ou encore un djerk. Mais dans le Val-de-Serre, c'est un réao. Pareil, pour ce qui concerne le clopoint, c'est-à-dire le tourteau, là, c'est en train de tomber en désuétude également, la forme dian, pour un très gros mâle. Et pour la femelle, on a vu bochu. Donc, pour le homard ou mât, selon qu'il est mâle pâtu, femelle déjà signalée, et enfin, pour les flies patelles, déjà signalées, la forme rang, mais également... la forme cheval, c'est-à-dire cheval au pluriel. Ce n'est jamais utilisé au singulier, par contre. Une grosse flie ne sera pas un cheval, mais on ramassera un ensemble de flies qui seront des chevaux. On peut noter, en fait, comme je vous le disais, que plus une espèce a d'importance sociale, économique, voire tout simplement vivrière, plus le champ lexical qui la concerne est étendu. C'est quelque chose, donc, pratiquement de général. Parfois, je vous l'ai dit, il s'agit d'espèces nobles, donc à cause de la vente, comme le homard, mais ça peut être aussi une espèce tout à fait commune, vulgaire, comme la patelle, la fille, mais qui est une espèce vivrière, ou encore comme les labridés, les vieilles, les vrats, qui peuvent non seulement servir de nourriture, mais également d'appât pour les casiers, pour les lignes, etc. Bon. Jusqu'à parfois des choses très banales, comme les ophiures, ces sortes d'étoiles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça ne se mange pas ça... Non, seulement les ophiures, avant d'avoir des sondeurs, etc., les pêcheurs se référaient aux ophiures. Quand vous pêchez des ophiures d'une certaine couleur, vous savez que vous n'avez pas besoin de laisser vos casiers là, vous ne pêcherez jamais le homard. Par contre, si vous allez un peu plus loin et que vous trouvez des ophiures rouges, alors là vous pouvez laisser vos casiers homard. Vous allez pêcher du homard. Et donc, c'était un renseignement très important, et donc, ça avait un nom. Hein. Mais, donc, plus l'espèce intéresse d'une façon ou d'une autre, plus son champ lexical est important. Alors, les champs lexicaux, ben, ils peuvent porter sur des distinctions très diverses. On sait, pour les petits, donc en regardant le sexe. Et pour les gros, ça va de soi, du premier coup d'œil, on sait, à la grosseur des pinces, à la largeur de la queue, que l'on a affaire soit à un mâle, soit à une femelle. Hein. Donc, immédiatement, on dit un patu, une femelle. Bon. Donc, les champs lexicaux, hein, mâle, femelle. Les adultes et les immatures. Ceux qui sont comestibles, ceux qui ne le sont pas encore, hein, ceux qui sont commercialisables, ceux qui ne le sont pas encore. Bon. Donc les petits, les gros, les maigres et les gras. Parce que quand vous avez un poisson maigre qui est plat comme une... Hein, et, ou vous avez un poisson bien dodu, bien rebondi, du point de vue commercialisation, ça ne va pas être la même chose. Bon. Donc, s'il est vide ou s'il est plein. Un homard vide, ben, c'est un homard vide, ça ne vaut rien du tout. Hein. Alors qu'un homard plein, ben, c'est un homard plein, donc c'est bon. Hein. Et quand on a des homards vides, ben, on n'en trouve pas très joue la défaîchon, comme on dit. Hein. On en trouve pas toujours la commercialisation. Hein. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Non. S'il est en période de frais, par exemple, pour une femelle, quand elle a ses œufs, et mourrée. Hein. Donc à ce moment-là, il devient une femelle amourée. Hein, par comparaison avec les mourées, c'est-à-dire les mûres, le fruit de la ronce. Hein. Bon. S'il est, comme je vous le disais, un homard amputé d'une pince ou des deux pinces, c'est pareil, il n'a pas la même valeur commercialisable, donc il ne portera pas le même nom. A contrario, on ne sait pas toujours faire la distinction entre certaines espèces qui se ressemblent, qui ont un aspect semblable, donc par analogie, on les classe dans la même variété. Hein. Et le fondement scientifique, ma foi, bon, hein, c'est le cas, je vous citais tout à l'heure, de la mauve. La mauve, hein, c'est tout un ensemble de goélands, de mouettes, d'oiseaux marins qui se ressemblent. Bon. C'est le cas également du pionjon, petit pingouin, guillemot. Bon, parfois on ne sait pas faire la différence, mais on sait que c'est un oiseau plongeur. On le voit à la surface de l'eau, on le voit qui plonge, c'est un pionjon. Parfois même, on fait des confusions entre des espèces qui n'ont rien à voir. Donc ici, nous avons le fameux phyle et patelle. Hein, et sur une coquille Saint-Jacques, nous avons des baleines qui sont bien sûr des crustacés, mais qui n'ont rien à voir avec les précédentes. Hein. Eh bien, la dérivation que l'on fait sur phyton, petite flie, est donc consacrée à désigner les baleines, qu'elles soient sur des coquilles ou sur la coque d'un navire. Hein. Ce sont donc des phytons. On dit aussi, quand c'est plus petit et que c'est surtout sur les coques de navire, de la grappe. La coquille Saint-Jacques, le pecten maximum, c'est la vanne. Et chez nous, c'est les vannes. Or, la petite, clame, c'est la clame, clams opercularis, hein, qui ressemble à la coquille Saint-Jacques, mais qui est toujours petite. Il n'y a pas de gros spécimen. On se figure que c'est, bien entendu, une petite coquille Saint-Jacques. Donc, la vanne aura comme donc équivalent en petit une vannette ou un vanneau. Les deux espèces sont proches, mais sont différentes néanmoins. Il y a d'autres exemples, oui, qu'on pourrait citer. Par contre, quand vous avez dans la série des labridés, des vrais, des vieilles, ce qu'on appelle le labre varié, et il a la particularité d'être très coloré, mais d'avoir un mâle d'une couleur, une femelle de l'autre. Le mâle est bleu, dans les tons bleu indigo, alors que la femelle est dans les roses orangés. Les deux s'appellent des musiques, parce qu'ils ont tendance un peu à grogner aussi, hein, bon, faire du bruit. Bon. Mais la première, donc c'est d'ailleurs le mâle qui est bleu, s'appelle une madeleine, cependant que la femelle, rose orangée, alors là, on retrouve la musique, ça s'appelle un violon. Et on n'a pas conscience, en fait, que c'est le même poisson avec sexe mâle et sexe femelle. J'aurais pu parler également d'autres problèmes qui se posent à nous en matière de lexico, j'aime bien dire logis, moi. Parce que la lexicographie, c'est un peu le recensement, d'accord ? Alors que la lexicologie, il y a l'homme derrière, il y a son milieu. On s'aperçoit que quand on fait du relevé comme cela, alors moi, bien entendu, j'ai l'avantage, c'est d'avoir une formation universitaire qui me permet quand même de trier les choses, hein, de limiter un petit peu la passion par moment, et d'autre part, d'être plongé dans le milieu, hein. Donc d'être accepté par mes pairs qui peuvent me transmettre les mots directement. On s'aperçoit que ce n'est pas facile parce que, on a bien vu, d'un port à un autre port proche sur la côte, on peut avoir des appellations qui sont différentes. Mais ça, c'est le rôle de tous les atlas linguistiques, hein. C'est ce qu'on appelle l'onomasiologie, hein, en termes scientifiques. Tout le monde connaît ça. Donc, on recense, en quelque sorte, pour une même espèce, une même chose, tous les mots qui peuvent donc désigner cette chose. Sauf que, il y a également, vient interférer la polysémie, comme en français, comme n'importe quoi. Parce que, je vous parlais tout de suite du tap-tu, la Galatée. Mais le tabtu, c'est la petite voile également. Hein. L'œil de brebis, le rang, et puis le bélier lui-même, le rang. Hein. Donc, on voit bien la polysémie, on est obligé donc d'en tenir compte. Et, dernière chose, alors là, c'est la plus enquiquinante, quand on veut faire, justement, un dictionnaire, c'est la sémasiologie. C'est-à-dire, comment un même mot peut désigner des choses totalement différentes. Ainsi, ça, c'est une vanne, mais seulement si je viens à Grand Camp, c'est une goufiche, qui désigne la liotiche chez nous, et ici, à Saint-Va, c'est un sillieux.